Chapitre 11e. C'était avec anxiété qu'Hélène attendait la rentrée des classes. Combien d'élèves aurait-elle? Pour qu'elle réussît dans son enseignement, il lui fallait des élèves. Pour qu'elle vécût, il lui en fallait aussi. En votant la laïcité de son école des filles, le conseil municipal d'Ivranche n'avait pas voté la gratuité de l'enseignement. Pelletier et Fillette voulaient cette gratuité et disaient que l'État exigeait assez de ses enfants pour leur donner l'instruction qui, d'ailleurs, lui profitait à lui, État, au moins autant qu'à eux. Mais Bonneau, le politique, avait fait rejeter cette proposition en disant qu'on n'attache de prix qu'à ce qu'on paye et que tant que l'instruction ne serait pas obligatoire, il ne fallait pas qu'elle fût gratuite, sous peine d'être négligée et même méprisée par un certain nombre de gens. La ville Bonneau l'avait emportée. La laïcité avait été votée sans la gratuité, de sorte que l'institutrice se trouvait n'avoir pour vivre que, premièrement, un traitement fixe de 200 francs, deuxièmement, le produit de la rétribution scolaire, c'est-à-dire les 2 francs que chaque élève devait payer par mois, troisièmement, un traitement éventuel calculé à raison du nombre d'élèves gratuits présents à l'école, quatrièmement, enfin, un supplément accordé dans le cas où le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire et du traitement éventuel, n'atteindrait pas les 700 francs qui était le taux du traitement minima attribué à sa classe. C'était une bien faible somme que 700 francs pour 2 femmes, car cela ne faisait pas 40 sous par jour pour vivre. Quand elle avait dû venir à Ivranche, le maire, dans plusieurs lettres rédigées en belles phrases administratives, lui avait promis que la rétribution scolaire dépassait de beaucoup ces 700 francs, et tout naturellement, elle l'avait cru, ne sachant d'Ivranche que ce qu'en disaient les statistiques, c'est-à-dire que c'était une commune dont la population dépassait 3000 habitants, et qui, par conséquent, devait envoyer aux écoles 120 ou 150 enfants. Qu'elle eût seulement le quart de ses enfants, c'est-à-dire une 40aine d'élèves, cela lui faisait 80 francs par mois, lesquels, augmentés de son traitement fixe, lui permettaient largement de vivre sa grand-mère et elle. Mais depuis qu'elle était à Ivranche, elle avait dû en rabattre de ses beaux calculs théoriques. Aurait-elle 30 élèves? En aurait-elle 20? Le doute était permis. Et en voyant ce qui se passait autour d'elle, elle pouvait même se demander s'il en aura une seule. Quand Pelletier l'avait amenée de Condé à Ivranche, il lui avait parlé de ses 2 petites filles âgées, l'une de 11 ans, l'autre de 9, qu'il devait lui donner et qu'il lui avait recommandé, d'après ses idées personnelles sur l'éducation des filles, lesquelles idées ne manquaient pas vraiment d'originalité. De même, Fillette lui avait promis sa petite fille trop jeune pour avoir été encore à l'école, mais qui irait cette année-là, non pas tant pour apprendre quelque chose que pour faire acte de présence à l'école communale dirigée par une laïque, ainsi qu'il convenait à la fille d'un adjoint qui avait eu grande part dans l'émancipation d'Ivranche. Hélène comptait donc sur les 2 petites Pelletier, ainsi que sur Zoé et Fillette. Et c'était là pour elle 3 élèves qui devaient lui en amener d'autres. Pelletier était un des plus riches propriétaires du pays, et Fillette, en relation journalière avec tout le monde, jouissait d'une influence réelle. Mais quelques jours avant la rentrée, ayant été faire visite à Madame Pelletier pour voir ce que savaient ses futurs élèves et ce qu'elle pourrait attendre d'elle, elle avait été reçue par le père et la mère d'une façon embarrassée, et quand elle avait demandé à connaître les petites filles, on lui avait répondu qu'elles étaient sorties, bien qu'on entendît leurs cris de jeu dans le jardin. Que signifiait donc cet accueil? Pelletier lui tenait-il rancune pour la messe? À la fin, Pelletier s'était décidé à s'expliquer. « Je vais vous dire, relativement aux filles, que la seule chose qu'il y a, c'est que je ne peux pas faire ce que je voulais. Pour l'or, il est impossible de vous les donner. Comment? Vous les enverrez chez les sœurs? » s'écria Hélène, stupéfaite. Mais Pelletier se fâcha. « Envoyez mes filles chez les sœurs à qui je veux faire la barbe, on voit bien que vous ne me connaissez pas. »« C'est qu'elles vont aller à Condé, chez les dames de Saint-Joseph. »« Ah ?» « Ce n'est pas la même chose, » s'écria Pelletier, de plus en plus en colère. « Et puis la seule chose qu'il y a, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Vous savez, la famille, des tantes à héritage, il faut bien subir leur volonté. Elles imaginent que l'école ne va plus être fréquentée que par les filles des ouvriers et des pauvres, et que ce ne serait pas là une camaraderie pour leur nièce plus tard. Vous comprenez, hein ?»« Je comprendrai cela chez les gens qui n'auraient point vos opinions. »« Mes opinions, est-ce que ça touche, mes opinions ?»« Pelletier ne change jamais. » Je voulais faire la barbe aux sœurs, je la leur ferais. Moi, si j'étais libre, j'enverrais justement mes enfants à l'école parce qu'elles y auraient pour camarades des filles d'ouvriers. Est-ce que je ne suis pas du peuple? Y a-t-il quelqu'un qui me dise que je méprise le peuple? Qu'il lève la main, celui qui dit ça, et moi, Belle-Dieu, Isidore, Casimir, je lui règle son compte. Seulement, la seule chose qu'il y a, c'est que je ne suis pas libre. Faut bien que j'écoute mes tantes, qui ont été élevées bigotement et qui ne savent pas raisonner. Élevées comme leurs grand-tantes, vos filles ne raisonneront-elles pas comme elles? Croyez-vous que je ne me le dis pas? Moi, je ne peux pas pourtant sacrifier leur héritage. Pensez donc, le meilleur herbage du pays. Un bœuf, si en Grèce, en 3 mois, elle me déshériterait, aussi vrai que je m'appelle Pelle-Dieu. C'est borné, ça a l'esprit étroit, tout rempli de superstitions et de préjugés. Ne craignez rien, les sœurs me paieront ça. Vous verrez, je vous dis que ça. Évidemment, il n'y avait pas autre chose à dire. Et dès lors que les sœurs devaient payer ça, et que Pelle-Dieu était toujours décidé à leur faire la barbe, Hélène eût été vraiment malvenue de se plaindre. Aussi ne se plaignit-elle point. Mais elle s'en revint fort chagrine, à travers les magnifiques herbages de Pelle-Dieu, où les bœufs avaient de l'herbe jusqu'au poitrail, se demandant ce que serait son école si elle était ainsi abandonnée par ceux qui, précisément, devaient être les premiers à la soutenir, puisque cette école était leur œuvre. Enfin, si elle perdait les petits Pelle-Dieu, au moins lui restait-il Zoé Fillette. C'était là ce qu'elle devait se dire pour se consoler. Comme elle arrivait devant l'auberge du Turc, elle aperçut Madame Fillette sur le pas de la porte, exposant à l'air frais son visage allumé par les feux du charbon, et elle ne voulait point passer sans s'arrêter. « Comment va Zoé ? » demanda-t-elle après les premières politesses. « Je vous remercie. Elle va bien, c'est-à-dire non. Elle ne va pas très bien. Et même, nous aurions à vous parler à son sujet. Soyez sûr que j'aurai pour elle toutes les précautions que vous désirez. J'en suis bien certaine, et je vous en remercie. Seulement, c'est plus que des précautions qu'il faut avec elle. » Et elle s'arrêta, embarrassée, s'occupant à passer le coin de son tablier blanc dans le cordon qui sanglait son ventre rebondi. Mais cela ne lui donna pas une contenance plus assurée. « Entrez donc, » dit-elle tout à coup, « Fillette va vous parler. » Et passant la première, elle appela son mari qui était dans le billard, où l'on entendait le carambolage des billes. Puis elle alla à son fourneau, où elle se mit à faire sauter ses casseroles. Enfin, Fillette abandonna le billard, et quand il parut dans la cuisine, Madame Fillette abandonna aussi son fourneau, puis ouvrant la porte d'une petite salle, elle fit entrer là son mari et Hélène. « C'est pour que tu parles de Zoé à Mademoiselle Marguerite, » dit-elle. Ce fut au tour de Fillette de rester embarrassée, mais après un certain temps, il se décida. « C'est que nous ne pourrons pas vous donner Zoé tout de suite, » dit-il. « Elle n'est pas très bien et M. Tarot nous conseille de ne pas la faire travailler encore. Vous savez, quand le médecin a parlé... « Qu'a-t-elle ? » demanda Hélène. « Oh, rien de grave. Seulement, il faut des précautions. Après l'hiver, nous verrons. »« Au beau temps, » dit Madame Fillette. Hélène ne pouvait rien répliquer. Elle dit seulement que Pelle-Dieu venait justement de lui annoncer que ses filles entraient chez les dames de Saint-Joseph. « Pelle-Dieu, c'est un capon !» s'écria Fillette. « Et puisqu'il se conduit ainsi, son affaire est sûre. Il ne sera pas renommé au conseil. Un homme qui ne sait que crier, ça fait pitié. » Fillette reconduisit Hélène, puis quand ils furent seuls sur la place, « C'est pour ma femme, » dit-il à mi-voix. « Vous savez, moi j'ai besoin d'elle. Je ne peux pas la fâcher. Que voulez-vous qu'on fasse avec une femme élevée comme la mienne ?» En arrivant devant chez elle, Hélène croisa Bono, qui s'arrêta pour lui parler. « Vous paraissez toute bouleversée, Mademoiselle Marguerite. Qu'est-ce qu'il y a donc qui va mal ?» Hélène rapporta ce qu'elle venait d'apprendre. « J'ai toujours soutenu que les gens qui crient le plus fort étaient les plus poltrons, » dit Bono sentencieusement. « Mais qu'attendre de bon de gens qui ne comprennent rien à la politique ? Quel malheur que je n'ai pas une fille. Vous verriez si j'aurais peur de l'envoyer à votre école. C'est une honte. Heureusement, elle a cela de bon. Qu'elle montre à tous ce que sont ces braillards. En voilà qui seront sûrs de ne pas être renommés. » Ça avait été une vive satisfaction que Fillette avait prédit que Pelle-Dieu ne serait pas renommé. Ce fut avec une satisfaction non moins vive que Bono pronostiqua que ni Fillette ni Pelle-Dieu ne seraient renommés. Et là-dessus, il quitta Hélène pour s'en aller gaiement dîner. Bien qu'elle ne fût pas riche, Hélène avait ses pauvres. C'était une famille de 5 enfants vivant avec leur mère veuve, le père ayant été tué par sa faute dans une explosion de carrière. Comme elle ne pouvait pas leur donner des secours en argent, puisqu'elle n'avait pas d'argent, elle travaillait pour ses enfants, et elle avait habillé 3 des petites filles qui, avec les robes qu'elle leur avait taillées dans les siennes, pourraient venir décemment à sa classe. Quelques jours avant la rentrée, la mère de ses petites filles vint trouver Hélène et avec toutes sortes de réticences, d'excuses, de protestations, elle finit par lui avouer que ses trois filles allaient entrer chez les sœurs. « J'aurais voulu vous les donner, mais on m'a fait voir que je n'aurais plus de secours, et puis on ne les habillerait pas pour leur première communion, vous comprenez ?» Assurément, elle comprenait. La veuve ajouta, « Il ne faut pas que ça vous empêche de penser à mes pauvres petites. Justement, l'aînée a déchiré la robe que vous lui avez donnée, vous n'auriez pas un morceau ?»« Apportez la robe, je mettrai moi-même le morceau. »« C'est que, je vais vous dire, j'aimerais mieux qu'on ne sache pas que vous travaillez pour moi. »